Bonjour à toutes, bonjour à tous. Que le Seigneur vous bénisse. C'est une vraie joie d'être avec vous et de pouvoir partager la parole de Dieu. Aujourd'hui, on va démarrer une nouvelle série, une série sur l'amour. Et c'est un beau programme que l'amour pour débuter cette rentrée. On croit vraiment que on peut encore progresser dans ce domaine de l'amour. Je vous invite à chercher 1 Corinthiens chapitre 13. C'est le chapitre sur l'amour. Demain et dans les jours qui suivront, ce sera la rentrée pour tous nos enfants, pour les étudiants et la reprise pour du travail pour tous les autres. C'est aussi une nouvelle année pour notre Église qui commence les 14 et 21 septembre, les dimanches 14 et 21 septembre, après notre culte, nous aurons le forum des ministères. C'est une présentation de tous les ministères qui se développent dans l'Église, ou en tout cas de beaucoup de ministères qui se développent dans l'Église. Tout ça pour que chacun puisse prendre une part et s'engager dans un service au sein de l'Église. C'est vraiment quelque chose d'important pour nous, parce que l'Église, c'est un corps, et chaque membre du corps est utile et important pour le fonctionnement et le développement du corps de l'Église. Quand on pense, mais qu'est-ce que je pourrais faire dans l'Église? Généralement, on pense immédiatement, quels sont mes talents? Quels sont mes dons? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je sais faire ou qu'est-ce que j'aime faire? Ça, c'est une bonne question pour essayer de reconnaître notre don. Quelle est ma place, au fond, dans le corps de Christ? Mais il y a une question plus importante encore, plus primordiale, plus essentielle que celle-là pour servir, c'est « Ai-je l'amour ?» C'est difficile d'aimer. Très difficile d'aimer. C'est beaucoup plus facile d'être orthodoxe dans sa doctrine, d'être très carré dans sa doctrine, que d'aimer. C'est plus facile d'être actif et engagé dans un service que d'aimer. Pourtant, la caractéristique suprême que Dieu attend de son peuple, c'est l'amour. 1 Corinthiens 13, c'est probablement du point de vue littéraire, le plus beau texte de l'apôtre Paul. On a appelé ce texte l'hymne à l'amour. Il est très connu, souvent lu dans les mariages. Il est le chapitre central d'un enseignement qui est plus vaste sur les dons spirituels, qui a été commencé au chapitre 12 et qui finit au chapitre 14. Et je vous invite à faire la lecture du chapitre 13, du coup. 1 Corinthiens 13. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne sert à rien. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice. Mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Les prophéties seront abolies. Les langues cesseront. La connaissance sera abolie. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. On va méditer sur ce chapitre les prochaines semaines. Aujourd'hui, on va simplement se concentrer sur les trois premiers, les versets 1 à 3, avec cette pensée que sans l'amour, même les dons les plus impressionnants sont du bruit. Christ nous montre que l'amour est la réalité ultime qui donne du sens à tout. Et je vous propose de regarder cela ensemble. Ce matin, on va voir que les dons spirituels ne prouvent rien. Le peu ou l'absence de dons n'excuse rien. Et que l'amour est le motif suprême de notre service. Regardons tout d'abord, les dons spirituels ne prouvent rien. Les dons spirituels, au fond, révèlent la générosité de Dieu qui a fait ces dons, mais pas la profondeur de notre amour, ni la santé spirituelle de nos cœurs. Corinthe, c'est une ville importante, très ancienne. Elle est située à 80 kilomètres à l'ouest de Athènes, et elle jouissait d'un emplacement crucial, juste ici. La Grèce et tout ça, la partie continentale, et puis ce qu'on appelle le Péloponnèse, où dans la Bible on parle de l'Achaïe. Et Corinthe se trouve juste ici. Cet espace-là, c'est un isthme de un peu plus de 6 kilomètres de large. Et donc le commerce pour passer du nord au sud, du sud au nord, traverser et passer à Corinthe. Vous voyez le genre d'endroit stratégique pour faire du business, pour faire du commerce. Et donc cette ville, elle a prospéré énormément. Et puis, c'était une ville ouverte sur deux mers, la mer Égée, de ce côté-ci, et puis la mer Ionienne, ou la mer Adriatique, de ce côté-ci. Et donc, il y avait aussi du commerce maritime qui se faisait sur ces deux ports. Et puis même, il y avait, pour éviter tout ce contour du Péloponnèse, 400 kilomètres de côte avec des risques de naufrage, on faisait transiter les marchandises sur cet isthme. Donc c'était énorme comme coin stratégique et la ville s'est énormément développée. Depuis le 19e siècle, la fin du 19e siècle, il y a eu un canal qui a été creusé pour rejoindre ces deux mers. C'est le canal de Corinthe, il mesure 6 kilomètres et quelques de longueur. Cette ville, en 146 avant Jésus-Christ, s'est rebellée contre l'Empire romain. Et Rome a fait un exemple de ce qui arrive aux gens qui se rebellent. Tous les hommes de Corinthe ont été exécutés. Les femmes et les enfants ont été vendus comme esclaves. La ville a été incendiée, brûlée, détruite entièrement. Pendant un siècle, il n'y a plus eu d'habitants à Corinthe. La ville a cessé d'exister. Et puis en moins 44 de notre ère, Jules César a autorisé la reconstruction de cette ville de Corinthe. Après toute une période d'instabilité, des gens qui ont pris quelques décennies, des gens sont venus s'installer à nouveau à Corinthe pour faire du business, pour entreprendre, et cette ville a recommencer à prospérer, à retrouver un dynamisme. Il s'est développé aussi les jeux ismiques, c'est l'autre grande compétition antique avec les Jeux Olympiques. Et puis ils ont reconstruit le temple d'Aphrodite, la déesse de l'amour, qui comptait 1000 prêtresses, prostituées religieuses qui vendaient leurs services aux habitants et aux étrangers. En résumé, à l'époque où Paul est arrivé dans cette ville pour y annoncer l'évangile, c'était une ville nouvelle, dynamique, sportive, riche, dans laquelle affluaient des businessmen. D'ailleurs, l'apôtre Paul a retrouvé dans cette ville Aquilas et Priscille qui faisaient un business de fabrication de tentes. Et comme c'était aussi son métier, il a fait ça pendant quelques temps avec eux avant de rejoindre le ministère de l'évangélisation de cette ville. Et puis, c'était une ville connue pour sa débauche, au point qu'elle a donné son nom à un verbe, corinthiser, c'est vivre vraiment dans la débauche. Bref, les habitants de Corinthe, du temps de Paul, sont des gens qui sont doués. C'est des gens talentueux. C'est des gens qui veulent apporter et construire quelque chose. Ils sont sportifs, entrepreneurs, ils sont mondains. Et l'évangile les bouleverse. L'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Ils sont bouleversés quand ils ont entendu le message de l'évangile. Et dans les 18 mois de ministère de l'apôtre Paul dans cette ville, les gens de divers horizons se sont convertis, se sont attachés à Christ. Et Paul leur écrit cette lettre depuis la ville d'Éphèse. Et voici ce qu'il leur dit au tout début de la lettre, chapitre 1, au verset 4 à 7. Il leur dit « Je rends à mon Dieu, de continuelles actions de grâce à votre sujet. » Pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses. Ils cherchaient tout le temps la richesse. Ils étaient là pour faire du business. Mais là, il leur dit, vous êtes comblés maintenant par la richesse de l'évangile qui concerne la parole et la connaissance. Ils cherchaient la connaissance. Ils ont la connaissance. Le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don. Dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils ont tous les dons. En effet, Dieu a donné à ses chrétiens des dons de parole, sagesse, connaissance, à un autre la foi, à un autre le don de guérison, de miracle même, des dons de miracle, de prophétie, de discernement des langues et de leur interprétation. Tout cela par le même esprit et tout cela pour l'utilité commune de l'Église. Mais cette jeune Église est encore charnelle. Elle connaît toutes sortes de divisions, de querelles, d'immoralité sexuelle, des procès entre chrétiens, des désordres dans le mariage et dans la sexualité. L'abus de la liberté chrétienne, le désordre aussi dans le culte, dans les relations hommes-femmes, dans les ministères hommes-femmes, dans le repas du Seigneur, dans les dons spirituels. On comprend, quand on fait la lecture de cette épître, que s'il ne leur manque aucun don, il leur manque quelque chose. Et cette chose, c'est l'amour. Ce très beau chapitre 13 n'est pas premièrement écrit pour des amoureux qui se marient. C'est en réalité une remontrance terrible. L'apôtre leur dit dans les versets 1 à 3, vous pouvez être super doué et même faire des miracles et ne pas être chrétien. Jésus avait dit sensiblement la même chose dans l'évangile de Matthieu, chapitre 7. Il dit « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom ? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom ? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ?» Alors je leur dirai ouvertement « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » En Matthieu chapitre 10, au verset 1, il est écrit « Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs, de guérir toute maladie et toute infirmité. Et voici les noms des apôtres. Et vous connaissez l'un de ces noms, Judas, l'Iscariote, qui livra Jésus. Il était doué. Il avait reçu comme les autres le don de guérir des maladies, de ressusciter des morts, de purifier les lépreux, de chasser les démons. Et pourtant, nous savons qu'il n'était pas un chrétien. C'est comme si Jésus était en train de dire « Vos dons ne prouvent rien ». Ça signifie que le Saint-Esprit peut accomplir des œuvres, même miraculeuses, au travers d'une personne qui n'est pas régénérée. Mais ce que le Saint-Esprit ne peut pas faire, c'est porter du fruit dans une personne qui n'est pas à Christ. Regardez comment Dieu accorde des dons aux non-croyants. Et heureusement qu'il le fait. Imaginez ce que serait notre monde si tout le bien dépendait des seuls croyants. Ce serait pitoyable. Dieu déploie sa grâce qu'on appelle la grâce commune. Ce n'est pas la grâce qui nous sauve. C'est la grâce dans laquelle Dieu utilise chacun, chaque homme, chaque femme dans ce monde pour être une bénédiction pour d'autres. Il y a dans le corps médical beaucoup de personnes qui prennent véritablement soin des malades et qui ne sont pas chrétiennes. Dans la communauté scientifique, des personnes qui ont fait des découvertes majeures pour le bien du monde, pour le soulagement du monde et pour prendre soin de la création. Il y a dans chaque profession des gens qui sont doués et qui font leur travail avec zèle, avec application, pour être une bénédiction pour d'autres. Il y a des personnes qui œuvrent dans des associations bénévolement. Pensez aux clubs sportifs, il y a des... Pensez aux associations caritatives, les Restos du Cœur. Tout le bien qui est fait sans que ce soit fait par des chrétiens. Pensez au milieu artistique, à certains politiques. Et puis il y a de nombreux parents qui élèvent très bien leurs enfants et qui ne sont pas croyants, qui ne sont pas chrétiens. Dieu accorde visiblement des dons, de l'autorité et une mission à des hommes et des femmes qui ne connaissent pas véritablement Jésus-Christ comme leur sauveur. Cyrus, le roi de Perse, est un de ces exemples. Dans le prophète Ésaïe, il était appelé son oint, c'est-à-dire l'homme choisi par Dieu, que Dieu tient dans sa main. Et il lui dit « Je t'ai donné un rang d'honneur sans que tu me connaisses. Et puis je t'ai doté de force sans que tu me connaisses. » Véritablement. Voyez-vous, les dons sont accordés pour le bien de notre monde, même parmi les non-chrétiens. Et c'est là la chose capitale à laquelle nous devons faire attention. C'est là le grand danger que nous courons. Nous tous qui servons dans un ministère. Je pense à toute l'équipe pastorale. Je pense au staff, aux anciens, aux diacres, à tous les responsables de ministère, à tous ceux qui servent avec eux dans les ministères d'accueil, d'enfance, de louange, de chorale, de musique, de navette, de café, de travaux, tous ceux qui ont un ministère dans la prière, dans les visites, dans le ménage, tous les responsables de groupes de maison, tous, nous courons un grand danger. Nous pouvons nous tromper nous-mêmes en pensant être quelque chose parce que nous sommes doués ou parce que nous sommes utilisés par Dieu. Mais vous savez, vous pouvez vivre loin de Dieu, être orgueilleux, être en colère contre votre femme, contre vos enfants, contre votre chien même, ou contre tout ce monde, et pourtant chanter merveilleusement. Vous ne perdez pas votre voix lorsque vous êtes complètement froid avec votre Dieu. Vous pouvez même produire une certaine émotion à d'autres, et même être félicité par les autres, tout en étant froid avec votre Dieu. Les pasteurs peuvent prêcher un message, écrire un livre qui touche des cœurs, parce qu'ils sont doués pour écrire ou pour parler. Surtout parce que la vérité qu'ils prêchent, l'Évangile, est puissant par lui-même. Mais vous voyez à quel point ça peut être trompeur sur notre état véritable, spirituel. On pourrait se dire, tout va bien, le Seigneur m'approuve puisqu'il m'utilise. Et vous savez, Jésus, quand il faisait son entrée triomphale dans Jérusalem, et que la foule, ses disciples, criaient « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur », les pharisiens sont venus voir Jésus en disant « Hé, retiens tes disciples, il ne faut pas qu'ils disent ce genre de choses ». Et Jésus leur a fait cette réponse « S'ils ne font pas ces choses, les pierres les crieront ». C'est comme s'il leur dit « Les acclamations de la foule doivent être encouragées et non pas méprisées ou réprimées ». Les habitants de Jérusalem exprimaient une grande joie et cette joie était parfaitement appropriée. Et si nécessaire que s'ils n'exprimaient pas leur louange, alors il conviendrait que des objets inanimés comme des pierres le fassent à leur place. Et ça explique pourquoi on peut être tellement béni, tellement édifié par des gens doués spirituellement, des orateurs, des blogueurs, des écrivains, qui, un jour, se révèlent avoir vécu durablement dans de graves péchés, ne pas avoir aimé. La qualité de la vie spirituelle ne se reflète pas dans les dons spirituels, mais dans le fruit de l'esprit, dont la première manifestation, c'est l'amour. Sans le fruit de l'esprit, sans l'amour, on peut exercer des dons spirituels dans la chair, avec un sentiment de supériorité, d'indépendance vis-à-vis de Dieu, pour des motifs tout à fait égoïstes, ce qui provoque du ressentiment, parfois de la jalousie, un sentiment d'infériorité chez les autres, qui ne possèdent pas ces dons ou dans la même mesure. Et du coup, dans l'Église, nous devons faire attention à ne pas valoriser les performances, l'éloquence, l'activisme, les réussites visibles, plus que l'amour. Sans amour, tout cela devient creux, vain, une cymbale qui résonne. Du bruit qui ne construit personne. Deuxième pensée que je voudrais relever ici, c'est que le peu ou l'absence de dons n'excuse rien. On pourrait avoir au moment du forum des ministères cette réaction et se dire « Ah, mais moi je ne sais rien faire, je n'ai pas de talent particulier. Tous mes frères et sœurs sont beaucoup plus doués que moi. Je les laisse faire. » Moi, je reste chez moi. Mais penser que vous n'êtes pas suffisamment doué pour servir est une forme de rejet de la grâce de Dieu. Vous êtes habilité à servir, non parce que vous êtes doué, mais parce que vous faites partie du corps. Il faut qu'on réalise que, au fond, tous les dons sont limités. Il y a nécessairement quelqu'un de plus doué que vous. Il y a toujours un meilleur prédicateur. Et il y a toujours un meilleur traducteur. Il y a toujours un meilleur chanteur, musicien, un meilleur leader, un meilleur enseignant, un meilleur technicien son vidéo. Il y a toujours un meilleur bricoleur, un meilleur organisateur. Et vous savez quoi ? L'amour de Dieu ne nous est pas donné avec mesure. En Romains 5, verset 5, il est écrit « L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Vous n'êtes pas la personne la plus douée, mais vous pouvez être la personne la plus aimante, la plus sainte, la plus humble, la plus généreuse, la plus fidèle, la plus douce que cette Église n'a jamais connue. Vous vous souvenez de cette veuve qui est venue apporter son offrande? Jésus observait, elle est venue avec deux petites pièces de rien du tout. Et Jésus, la voyant mettre ses deux pièces dans le tronc, a dit « Elle a donné plus que tous les autres. » Le peu de dons ne justifie pas de se retenir d'aimer. Moïse et son bégaiement. Ce qui compte, ce n'est pas sa capacité, mais sa disponibilité et sa dépendance de Dieu. Le jeune garçon qui vient avec 5 pains, 2 poissons. Ce n'est rien. 5 pains, 2 poissons pour 10 000 personnes. D'ailleurs, ils ont dit que c'était rien. Mais ce rien mis entre les mains de Dieu devient un acte d'amour qui nourrit des milliers. Si vous n'avez pas le don de chanter ou de parler en public, on ne va pas vous demander de le faire. Par contre, l'Église peut être édifiée par votre amour, par votre joie, par votre paix, par votre patience, par votre bonté, par votre bienveillance, votre foi, par votre douceur, votre maîtrise de soi. Ce fruit, il paraîtra dans toutes vos relations, dans vos prières, dans vos paroles, dans votre service, quel qu'il soit. Vous pouvez être nul dans l'organisation ou dans le leadership, et pourtant être une personne au pied de laquelle on vient rechercher du conseil parce que vous avez l'amour. L'amour est le motif suprême. Servir, c'est donner. Donner de son temps, donner de sa personne, de ses ressources. Comme on l'a vu, il est possible de donner sans aimer, mais il est impossible d'aimer sans donner. Au verset 3, Paul explique que l'on peut donner, servir avec des motifs mauvais. Il dit « Quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, une fois que vous avez tout donné, il ne vous reste plus qu'à donner votre corps. Si je n'ai pas l'amour, ça ne sert à rien. » À rien. On peut donner, on peut servir pour la gloire personnelle, pour entrer dans la postérité, pour recevoir des honneurs, se faire une belle image. On peut servir par crainte de l'enfer, pour apaiser Dieu, pour expier nos fautes et gagner sa faveur, ou essayer de le faire, ce qui est vain. On peut servir avec le désir de contrôler, comme une espèce de monnaie d'échange pour rendre l'autre redevable. Vous savez, je vous sers et du coup, vous êtes tenu de me servir. On peut servir avec la recherche d'avantages cachés. Je sers parce que j'aurai besoin de leur aide, de leur soutien prochainement. Je sers dans cette équipe parce que il y a une jeune fille dans cette équipe. Et du coup, si la jeune fille change d'équipe, vous changez aussi de ministère. Vous voyez bien que là, il n'y a pas d'amour. Aucun de ces motifs n'est valable parce qu'ils sont dépourvus de l'amour de Dieu et des autres. En fait, j'aime ce pourquoi je donne j'aime ce pourquoi je sers. Si je sers pour être applaudi, je m'aime moi. Si je sers pour échapper à la colère de Dieu, c'est ma propre vie que j'aime. Si je sers pour contrôler les autres ou retirer un avantage des autres, c'est encore moi que j'aime. Mon service est une offrande à moi-même, mais pas à Dieu. Et c'est fou ce que l'on est prêt à faire, à souffrir par amour pour nous-mêmes. Les hommes sont prêts à marcher sur leurs genoux, ils sont prêts à faire des pèlerinages coûteux et épuisants, ils sont prêts à se priver de bienfaits et de plaisirs de ce monde pour obtenir quelque chose pour eux-mêmes. Nos souffrances n'ont aucune valeur en dehors du motif qui nous pousse à les endurer, si le motif est égoïste, pour être vu ou pour obtenir quelque chose. Alors nous avons ce que nous recherchions. Mais si notre motif est une réponse d'amour à l'amour de Dieu, alors Dieu est glorifié. L'amour pour son nom, au fond, c'est la seule valeur ajoutée que Dieu puisse recevoir. Du coup, quand nous servons, quand nous allons nous engager dans le service, nous pouvons réfléchir à la sincérité de notre amour pour Dieu. Est-il vrai ? Notre amour est-il vrai, sincère ? Sans hypocrisie ? Est-il libre ? Sans contrainte ? Est-il intègre ? Sans contrepartie ? Pur ? Sans mélange ? Si ce n'est pas le cas, il ne faut pas s'arrêter ou arrêter de servir, mais se repentir et servir avec un amour pour Dieu. Aimer, quand on y pense, selon Dieu, c'est surnaturel. L'amour qui est développé dans la suite du texte, il provient de Christ. Il est visible à la croix lorsque celui qui est le plus doué se livre par amour pour nous. Ce ne sont pas ses dons qui l'ont conduit à la croix, mais son amour pour Dieu le Père. Et pour les pécheurs que nous sommes. C'était l'amour son motif. Celui qui avait le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, il savait qu'il souffrirait beaucoup, qu'il serait rejeté par les chefs du peuple, qu'il serait mis à mort injustement. Et il n'a rien fait pour échapper à la croix, mais il a résolument dit à ses disciples, « Montons à Jérusalem ». Tout ça par amour pour moi, par amour pour nous. Celui qui avait le don de parler, il est le Verbe, il est la parole faite chair. Il avait les paroles les plus sages pour répondre aux questions tordues des pharisiens. Il n'a rien dit pour se défendre devant ceux qui l'accusaient, par amour pour nous. Celui qui avait la foi pour transporter les montagnes et toute l'autorité pour commander aux puissances. D'un mot, il a asséché un figuier. D'un mot, il chassait les démons. Il aurait pu, d'un mot, avoir 12 légions d'anges pour le délivrer des soldats venus l'arrêter. Mais il a dit, « Me voici. » Par amour pour nous. Celui qui avait la puissance de faire des miracles extraordinaires, guérir les lépreux, les aveugles, les paralysés, il n'a rien fait pour alléger ses souffrances. Parce que c'était nos souffrances qu'il portait. C'était nos iniquités qu'il le brisait par amour pour nous sauver. C'est l'amour de Christ qui a produit une telle œuvre. C'est l'amour de Christ qui a produit le salut. Et c'est pour cela que c'est l'amour qui doit animer notre service. L'amour de Christ, il ne peut juste que se recevoir. Si aujourd'hui vous n'avez jamais connu l'amour de Christ, vous pouvez juste l'observer. le regarder, l'admirer à la croix. À la croix, Christ se livre pour vous, par amour pour vous. Vous ne pouvez pas le payer, vous ne pouvez rien donner en retour, vous pouvez simplement le recevoir. Et Dieu le fait. Il vous donne ce pardon dont vous avez besoin. Il vous donne cette paix. Il vous donne sa vie éternelle. L'avez-vous reçu? Et l'amour de Dieu, il se répand dans nos cœurs. Ne le cherchez pas en vous. Vous serez déçus. Cherchez en Christ. Demandez-lui de vous apprendre à aimer comme il vous a aimé. Demandez-lui de déverser par son Esprit Saint l'amour de Christ. Cherchez à le connaître, à l'étudier dans sa parole. Essayez de vous l'approprier. Il va le déverser dans vos cœurs. Il va vous pousser à aimer comme lui. Les dons sans amour, c'est du bruit. Un peu comme feu d'artifice, vous savez, c'est magnifique. On entend bien, on voit bien. Mais ça ne vous réchauffe pas. C'est utile d'une manière éphémère. Dieu veut allumer un autre feu dans nos cœurs. Un feu qui brûle de l'amour de Christ. De ce fait, l'amour du Christ, même dans des actes tout simples, prenne une valeur et une dimension glorieuse, merveilleuse. Aimez de tout votre cœur, vos frères et sœurs, tout ça par amour pour le Seigneur qui vous a premièrement aimé. Amen. Prions. Seigneur notre Dieu, nous voulons te louer vraiment pour l'amour que tu nous as manifesté en Jésus-Christ. Seigneur, c'était pas tes dons qui t'ont conduit à la croix. C'était ton amour pour nous. C'était ton amour pour le Père. C'était un amour incomparable qui nous émerveille et qui nous émerveillera encore dans l'éternité. Un amour qui nous est difficile même à comprendre. Mais Seigneur, c'était ça, c'était ton amour, présentant ton caractère parfait. Seigneur, on a juste pu le recevoir. Je prie pour que chacun ici ait reçu l'amour de Jésus-Christ, qui lui donne cette assurance d'un plein pardon, d'une acceptation totale, d'une place réservée pour lui dans l'éternité, dans la présence même de Dieu, simplement à cause de Jésus-Christ. Et puis Seigneur, je te prie pour que nous tous, qui avons déjà reçu cet amour, que tu le déverses en abondance, que tu le multiplies dans nos cœurs, pour que notre Église soit une manifestation de l'amour de Jésus-Christ, au travers de tous les services qui peuvent se faire, petits et grands. Seigneur, que ton nom soit élevé et glorifié, parce que tout est fait par amour. Que cet amour vienne teinter, colorer chaque aspect de nos ministères, de sorte que, comme le repas fait avec amour, on puisse le distinguer à cette caractéristique, et ton nom soit glorifié. C'est notre prière en Jésus-Christ. Amen. Amen.